Et tout de suite sur France Inter, le Tché n'a plus aucun secret pour Philippe Bertrand et Hervé Pochon.
Absolument aucun. C'était la météo marine de Marie-Pierre Pranchon. Spécialiste de tout ce qui se passe en Amérique du Sud et très forte. Ça va, Marie-Pierre?
Oui, ça va très bien. Et vous?
Est-ce que tu as une image du Tché?
Ah oui.
Laquelle?
Bah, celle qu'on connaît. Et d'ailleurs, vous savez que je fais.
Attends, il y en a plusieurs maintenant, Marie-Pierre. Oui. Laquelle?
Laquelle?
Tu veux parler d'Alexandre Corda? Non. Les grandes photos d'Alexandre Corda.
Oui, photo avec mais lui n'a touché. Tout à l'heure, vous parliez de bénéfices. Il a touché.
Ah, lui, il s'est fait avoir, lui.
Oui, il s'est fait vraiment avoir.
Celui qui aurait pu gagner le plus, il s'est fait avoir.
Vous avez programmé la chanson, là, du Tché?
Eh, tu vas avoir une surprise. Tu restes à l'écoute.
Ah, je reste à l'écoute.
Adios.
Adios, amigos.
Bonsoir, c'est Zinzin.
Quel est le point commun entre Antonio Banderas, Keanu Reeves, Alfredo Vasco, John Travolta et Bernard Tapie? Je vous laisse réfléchir, non, c'est pas la peine. Tout simplement, ils ont ou ils vont interpréter le Tché pour le cinéma. Ça promet, vous voyez. Après les briquets et les t-shirts, le marché du Tché, comme disait Philippe, se mondialise, le rebelle est récupéré. Mais si vous voulez savoir qui était le Tché et comprendre pourquoi aujourd'hui on en fait un fromage, eh bien restez à l'écoute de France Inter, car nous avons sur le plateau Jeannette Abel, qui est sociologue enseignante à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Jeannette, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous pouvez également la voir, Jeannette Abel, dans le film de Maurice Dugovson, El Tché. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas le dire.
Oh, vous pouvez le dire, mais enfin, ils vont être déçus, vos auditeurs.
Non, ils ne sont pas déçus, je l'ai vu, c'est un très bon film.
Mais déçus par qui? Attends, une question. Par le film ou par Jeannette?
Ah, ça, je vous laisse réfléchir.
Non, le film est très très bien, et Jeannette était très bien, elle apporte son témoignage, parce qu'elle nous expliquera pourquoi elle connaît si bien le Tché. Et face à elle, Daniel Ben Saïd, qui lui pourra vous expliquer et nous aider à comprendre cette fin de siècle. Il vient d'écrire Le Paris mélancolique, et c'est publié aux éditions Bayard.
Donc nous Fayard.
Oui, Bayard, c'est une... c'est Fayard, voilà, c'est déjà bien. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Tout à fait.
Bon, alors nous attendons tous vos témoignages au 01 45 24 7000. Dites-nous si vous avez eu l'occasion de côtoyer le Tché, d'aller en Amérique latine, ce que vous pensez du Tché, ce que... T'es ça t'a fait rire,
Parce que, figure-toi, un message d'un internaute, donc sur notre boîte. Je dis très vite, c'est Frédéric qui dit, j'ai appris par le journal du dimanche dernier, que Jack Lang avait présidé une soirée dans une boîte de nuit des Champs-Élysées consacrée au Tché. Ouais. Et je ne crois pas avoir un culte quasi religieux pour le Tché, mais quel mépris pour les paysans sud-américains et centra-américains. Voilà ce que nous dit entre autres Frédéric.
Donc justement, l'adresse d'internet, Philippe, oui, pour réagir.
zinzin@radio-france.fr.
Et le fax
01 42 30 45 35.
Et vous
c'est
avez...
tout, oui.
Bon, ben non, je vais vous donner le Minitel, moi, tiens. Le Minitel, c'est 36 15 code France Inter. Et également, Sylvie Hasbrook. Sylvie, ce soir, est partie, pas en Amérique du Sud, malheureusement, pour elle. Mais où es-tu, Sylvie?
Oh oui, malheureusement, j'aurais bien aimé. Je suis rue de Charonne, dans un bar qui s'appelle Le Sud, qui est un bar assez couleur locale pour ce soir. Donc on sert des mojitos dans des grands verres Havana. Il y a des posters partout qui annoncent des soirées cubaines avec deux DJ cubains le dimanche soir. Et puis alors là, je suis
Sylvie,
au comptoir.
Excuse-moi, oui, c'est quoi des mojitos?
Les mojitos, c'est un cocktail à base de menthe, citron, glace pilée, rhum. Enfin, c'est, tu vois, un truc qui se boit tout seul et
léger,
qui rend euphorique.
Très bien.
Et je suis juste à côté de Claude qui vient d'arriver. Et Claude porte un béret exactement comme le Tché.
Avec l'étoile?
Oui, avec l'étoile. C'est un hommage au Tché, Claude?
Oui.
Bon, ben,
pourquoi?
C'est pas un hommage, c'est pas un hommage. Je l'ai toujours porté depuis longtemps. C'est dommage, c'est la mode maintenant.
Et ben voilà, c'est la mode maintenant. Donc ben, je suppose que, on va en parler de la mode ce soir, les garçons.
Ah, bien sûr, on compte sur toi.
Et ben je vous retrouve tout à l'heure.
Oui, à tout à l'heure, Sylvie. Et donc, on attend tous vos témoignages au 01 45 24 7000. N'hésitez pas. Et si c'est saturé, vous avez le Minitel 3615 code France Inter. France Inter, c'est Zinzin.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda.
día que pase, esa ola ya no parará más.
Nathalie Cardone, Hasta Siempre, qu'on pourrait traduire, je ne suis pas spécialiste, mais je me suis un petit peu renseigné, on pourrait traduire ça par « à la vie, à la mort », comme ça vous convient pas
Non, pas tout à fait.
Alors,
non,
comment vous traduiriez-vous, Jeannette Abel?
Bonne question.
Hasta siempre.
À jamais.
À jamais. Oui, à jamais, à tout. Oui, très bien.
À jamais, à toujours. Bah, c'est un petit peu à la vie, à la mort. À jamais, à toujours.
La mort, on en reparlera parce que c'est.
C'est vraiment. C'est vrai qu'effectivement, c'est très présent dans la vie du Che. Quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que c'est quelque chose qu'il a. Certains disent qu'il a recherché de toute sa vie ou qu'il a fui. Enfin, c'est assez. Sa relation à la mort est assez étrange. Et d'ailleurs, dans cette chanson de Nathalie Cardone, il y a quelques paroles qui sont acquises. Qui se queda la clara, la entranabella, transparencia de tu querida presencia comme anante guevera. Et qu'on traduit, ici demeure la claire, la profonde transparence de ta présence, chérie, commandant Guevara. Vous rendez compte un petit peu le culte que l'on peut lui vouer. Alors je voudrais savoir justement, Jeannette Abel et Daniel Ben Saïd, quelle image vous avez, vous, aujourd'hui, un souvenir comme ça de Che Guevara?
Un souvenir très politique et pas du tout, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans la presse. Le souvenir d'un rebelle, d'un dirigeant révolutionnaire et qui avait surtout ce que j'ai appelé une conception éthique en premier lieu du socialisme et surtout du pouvoir. Et donc qui tranchait sur à peu près tout ce que l'on pouvait connaître par ailleurs et qui tranche toujours d'ailleurs. Sur ce que l'on connaît aujourd'hui.
Et vous, Daniel Ben Saïd
Ben oui, on est peut-être un peu à contre-temps ou à contre-pied par rapport à la célébration christique ou commerciale qui déferle. Mais en fait, bon, notre rencontre, alors pour Jeannette, elle est plus directe, mais en ce qui me concerne, c'est la réception d'un formidable défi. C'est-à-dire, il faut le comprendre par rapport au milieu des années 60. À l'époque, dénoncer ce qu'était la pratique des pays dits socialistes dans la solidarité avec le tiers-monde, se dresser face à des puissants pouvoirs, des bureaucraties au pouvoir en Union soviétique, c'était exactement un écho avec la démarche que nous faisions pour notre part, c'est-à-dire de chercher une voie politique qui se reconnaissait plus dans des états-majors, des partis engoncés, routiniers. Bon, c'est d'abord ce message-là. Et bon, il faut, comme moi, j'étais à Nanterre en 67 au moment de la mort du Che. Avec quelle émotion, à une échelle assez large, les étudiants scrutaient ces terribles photos pour avoir confirmation ou infirmation, ne voulaient pas croire. Donc, il y avait un espoir de l'époque qui était accroché à cette image, à ce symbole, un symbole de défi à toutes les formes d'ordre établi.
Et aujourd'hui, Daniel, vous le regardez comment? Il a la même valeur ou il l'a complètement perdu et vous êtes nostalgique en pensant
Ben nostalgique, non. J'imagine qu'on aura l'occasion de reparler des côtés ambigus ou contradictoires de la célébration. Mais c'est une des raisons pour lesquelles ça marche quand même, c'est que la figure du Che aujourd'hui, elle a gardé ce message avec peut-être plus de force encore, puisque ça représente à peu près l'antithèse absolue des idées dominantes et de l'ère du temps, c'est-à-dire le refus absolu de la résignation, le refus absolu, aujourd'hui on nous dit qu'il n'y a que des contraintes économiques, on n'a plus d'obligations, on ne choisit plus son action, on se soumet à des contraintes, on est environné d'une certaine idée de la politique, de la corruption et du goût du pouvoir. Je crois que si, au-delà de l'ambiguïté, encore une fois, de la récupération et de la canonisation, mais s'il y a un écho dans la jeunesse, c'est que ça représente finalement une cause, une action qui n'est pas blasée, désabusée ni cynique. Ça, je crois que c'est le point important. Pourquoi des jeunes peuvent se reconnaître? C'est l'alliance presque naturelle de la jeunesse et de la révolution. Depuis Chérubin, Saint-Just, Barra, Viala, Rimbaud, bon, ben, y a ce côté jeunesse qui...
Alors justement, il faudrait préciser un petit peu assez rapidement quelle a pu être la vie du Che. Alors on l'appelait El Che parce que c'était le Che, c'était Che Guevara son prénom, donc on disait c'est ça.
Non, c'était pas son prénom. Che, c'est une
Ernesto, c'est interpellation. Son prénom, c'est Che.
C'est une interpellation argentine. Ouais. C'est une interjection que les Argentins utilisent pour dire bonjour ou te voilà ou écoute-moi. Mais, et comme il disait toujours Che dans la Sierra Maestra, on l'appelait le Che, le à Cuba.
Donc El Che ou Ernesto Che Guevara était argentin. Il a eu une enfance relativement heureuse, on va dire, sauf son asthme qui l'a beaucoup handicapé. Ça, on a pu le lire partout. C'est peut-être aussi cette relation à la mort vient de là. C'est vrai qu'avec l'asthme, il y a toujours cette...
Non, mais attendez, ça, c'est un premier contresens.
Ah, alors allons-y tout de suite contre les contresens.
Totalement erroné. Je ne vais pas vous citer mes sources médicales. Mais l'asthme, d'abord, c'est pas le bord de la... Ça n'est pas la mort imminente. Ça n'est pas tout ça.
C'est l'asphyxie.
Oui, mais ce que ça développe surtout, c'est un extraordinaire volontarisme. C'est l'inverse. C'est pas le sens de la mort ni la recherche de la mort.
Non.
C'est au contraire une extraordinaire volonté pour lutter contre la mort.
Oui, c'est ça. On est quand même en contact.
Oui, mais ça, c'est une composante très importante, effectivement, de ce qu'il a été, mais qui n'est pas du tout la volonté de mourir ni la recherche sacrificielle.
D'accord. Mais cette maladie va donc l'accompagner toute sa vie. Et alors, il va devenir médecin. Et puis, il va se retrouver à côté de Fidel Castro. Je résume sa vie parce que j'ai vu le film de Maurice de Gosson. Donc, je vous fais un petit raccourci pour que les auditeurs comme
T'as fait la bande-annonce, là, en t'écoutant. Ouais.
Moi, je vous fais la bande-annonce, mais allez voir le film parce que c'est vraiment bien. Mais bon, moi, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose. Donc, je pense qu'il est important de savoir que pour un Argentin, il s'est retrouvé à côté de Fidel Castro, qui était cubain, que Fidel Castro l'a emmené dans cette marche vers la Havane pour prendre le pouvoir à Cuba, qu'ils ont réussi alors que c'était... ça paraissait un défi impossible.
Improbable,
la preuve. Et donc, ils ont réussi. Fidel Castro a pris le pouvoir. Il a nommé Che Guevara, Ernesto Guevara, comme numéro 2. Il a eu beaucoup de responsabilités. Puis, il a assumé ses responsabilités avec plus ou moins de succès. Il a été mis de côté, nommé ambassadeur. Il a parcouru le monde où il a fait des déclarations qui ont un petit peu nuit à Fidel Castro et aux relations de Fidel Castro avec la Russie. Et puis, de là, il s'est retrouvé en marge de Cuba et il s'est engagé dans une lutte révolutionnaire en Bolivie, parce que son souci c'était ça, c'était d'essayer de révolutionner l'Amérique du Sud, alors l'Argentine, la Bolivie, et puis là il va trouver la mort assassiné par des militaires boliviens après avoir été trahi, on pourrait dire, par les paysans du coin,
ce qui est assez paradoxal. Et par le Parti communiste bolivien.
Donc voilà,
d'abord même.
Est-ce que ce petit résumé peut paraître correct et bon?
Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que pour qu'on comprenne un petit peu, il est ministre après la prise du pouvoir, ministre du gouvernement de Fidel Castro, et son première grande préoccupation est une préoccupation très actuelle, c'est qu'il se demande comment développer un pays qui est sous-développé, qui est une île, qui est Cuba, qui est à 150 km des côtes américaines, quelle stratégie de développement est possible déjà dans les années 60 dans un contexte aussi difficile. Et c'est à ça qu'il va réfléchir, comment faire pour qu'un pays qui a toujours été dominé, qui est un tout petit pays confronté à une très grande puissance, puisse progressivement sortir de son arriération économique. Et c'est à partir de là qu'il va être confronté à la politique menée à l'époque par l'Union soviétique, aux échanges qui vont exister entre l'Union soviétique, ce qu'on appelait le camp socialiste, et Cuba, et qu'il va commencer à être très critique, à avoir un regard très critique à l'égard de ce socialisme-là.
Mais vous ne pensez pas que la Havane, par sa petite étendue, est plutôt un terrain d'essai qu'autre chose ?
Non, pas exactement. Non, je ne crois pas à un terrain d'essai. Je crois que c'est une question d'opportunité. Il a rencontré Fidel Castro au Mexique. Il y avait un processus révolutionnaire en cours. Il s'y est rallié et il y a fait une expérience.
Parce qu'il y avait quand même d'autres raisons de lutte contre non seulement une forme d'impérialisme, mais aussi des États sous couvert de la dictature. Il y avait Batista à La Havane, mais il y avait d'autres raisons peut-être de guerroyer sur d'autres fronts.
Oui, mais il était latino-américain, il s'est toujours vécu comme latino-américain, et Cuba, contrairement à ce que l'on sait ou à ce que l'on ne sait pas, est un pays à l'époque, un pays en effervescence, un pays qui est en lutte contre la dictature, et probablement plus à ce moment-là que tout autre pays en Amérique latine.
Alors il y a un message, et je vois que le sujet Che Guevara implique des réactions violentes, alors sur tous les domaines. Alors le premier fax qui arrive, je redonne le numéro pour en avoir d'autres, surtout qu'il y a des insultes au passage, c'est le 01 42 30 45 1935. Et c'est Jean-Claude de Guadeloupe qui revient sur l'anecdote concernant Alberto Korda qui a immortalisé le Che et qui a, il a pris en photo. Et Korda dit aujourd'hui, j'étais tellement impressionné par le personnage que j'ai eu un mouvement de recul. Il dit bonsoir les médias. Korda ne s'est pas fait avoir. Non, il n'a simplement pas voulu de royalty. Ça vous épate? Point d'interrogation. Il ajoute connard. Alors je voudrais quand même répondre à Jean-Claude.
Ah oui, là,
moi, je serais à la place de Korda aujourd'hui, vu l'utilisation médiocre et lamentable qu'on fait de l'image du Che. Je m'en voudrais, je me mordrais les doigts, j'aimerais bien demander des royalties. Et c'est dommage pour Alberto Korda. Merci Jean-Claude au passage.
Et puis en plus, il n'a pas renoncé. Moi, j'ai jamais entendu dire qu'il avait renoncé au droit. Il a filé ce poster à un Italien qui était de passage.
Il a trainé le livre.
Voilà. Et qui après en a fait un tirage et il n'a jamais payé les droits.
Alors je suis désolé, on a fait attendre Bernard un petit moment, mais Bernard va pouvoir réagir. Bernard, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, toujours.
Oui, bonsoir. Alors, vous avez entendu en ouverture d'émission Daniel Ben Saïd qui expliquait l'esprit de la fin des années 60 qui, ici comme ailleurs, était un esprit d'adhésion à une cause révolutionnaire.
Oui, oui.
Vous l'avez connu, vous l'avez éprouvé aussi.
Bah oui, j'étais anarchiste en 68, et je suis toujours, j'ai 47 ans, donc je suis fidèle. J'ai écouté votre émission avec Michel Onfray la semaine dernière.
Oui.
Et je vais un peu reprendre ce que disait Michel Onfray.
Allez-y.
C'est-à-dire que moi, Che Guevara, c'est quelqu'un que j'ai apprécié en 68, parce que c'est un révolutionnaire, et quelque part c'est un résistant. Donc je le respecte en tant que tel, comme si c'était en 40, si c'était un gaulliste ou un socialiste ou un anarchiste, parce qu'il y avait des anarchistes dans la résistance française, ça, on ne l'a jamais dit, mais il y en a eu qui sont morts.
Oui.
Et ce que je voudrais dire, c'est que Che Guevara, s'il avait été au pouvoir, c'est quand même un marxiste-léniniste. Alors c'est pas un tyran comme Castro, mais s'il avait été au pouvoir, je pense que s'il avait eu des opposants, et entre autres des anarchistes, il les aurait liquidés physiquement. Parce qu'un marxiste-léniniste, il ne peut pas faire autrement. Parce que comme l'a si bien dit Michel Onfray, quand on est marxiste-léniniste et qu'on a le pouvoir, on devient corrompu et on commet des erreurs.
Mais Bernard, je crois qu'effectivement, même, on l'a bien dit, Ernesto Guevara fusillait des adversaires de la Révolution, c'était pas un tendre.
Non mais même ses alliés, je veux dire, les anarchistes, je prends un exemple, en Espagne en 36-39 et en Russie, les marxistes-léninistes, les trotskistes ont assassiné les anarchistes qui étaient des révolutionnaires à leur côté. Donc Che Guevara, aujourd'hui on en fait une colonne de 3 mètres de haut, des posters et toute la jeunesse est à l'adorer devant, mais bientôt peut-être que dans 10 ans on le déboulonnera comme on a déboulonné Lénine, Staline et Trotsky.
Alors je pense que Jeannette Abel a sûrement des réactions.
Oui, bien sûr.
Tout d'abord je voudrais vous dire qu'il y avait dans le ministère du Che quand il était ministre de l'Industrie un anarchiste espagnol qui avait contribué à son entraînement militaire au Mexique et qui donc était quelqu'un qui avait bénéficié de toute son estime. D'autre part, le ministère du Che, je peux vous donner des exemples précis, comprenait des gens qui avaient été ou les boucs émissaires et donc victimes d'évictions politiques, ou bien des gens qui avaient même été ses adversaires, notamment un ministre connu, qui s'est par la suite beaucoup plus tard, mais qui s'est suicidé, et qui était dans son ministère, et témoignage plus important, celui d'un écrivain, Héberto Padilla, qui a écrit un livre en français, qui est un écrivain qui a été plus tard victime d'un procès politique du type de celui de l'aveu à Cuba, et qui a écrit un livre que vous pouvez trouver dans les librairies qui s'appelle La mauvaise mémoire, et dans lequel il témoigne en faveur du Che, et de manière très bouleversante d'ailleurs, en faisant état des conseils que le Che lui a donnés pour lui dire de ne pas trop se mêler de journalisme en
64.
Non, je crois qu'il faut quand même surtout pas mélanger des actes de guerre par rapport à l'ennemi, parce que c'est quand même une situation de guerre. Et puis dans un monde, il faut rappeler quand même le contexte à quelques années près du Vietnam, du coup d'État en Indonésie, etc., qui est un monde extrêmement violent. Et le respect d'une forme de pluralisme, de diversité d'opinion parmi ce que l'auditeur appelle les alliés. Et là, ce que dit Jeannette, tous les témoignages là-dessus, plutôt que par rapport à l'époque et à ce qu'étaient les idées de parti unique, de monolithisme et même la formation de pensée militaire que crée une guérilla, bon, que le Che était plutôt respectueux et que son ministère était plutôt un lieu de protection pour des gens qui étaient jugés plus ou moins hétérodoxe qu'un lieu d'exclusion, dans les limites des contraintes et d'une situation de tension, de guerre, d'affrontement ou de blocus qu'il ne faut pas non plus sous-estimer.
Merci Bernard.
Ok, au revoir.
Zinzin. Viva Che Guevara, Zapata, Pancho Villa. Pour eux, la mort, pour nous, la samba.
Et on retrouve Sylvie Hasbrouck en direct du...
Du sud.
El Sud, du
en
sud.
En direct de Cuba, qui a pris l'avion en une demi-heure. Moi, je suis toujours à côté de Claude.
Ouais.
Mais depuis tout à l'heure, il y a une discussion qui s'est un peu mise en route avec donc Thierry et François, qui sont deux habitués. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, déjà, la première chose qui était importante, c'est Claude, ton béret, il a une histoire.
Ouais.
C'est quoi l'histoire de ce béret ?
J'ai pas envie de la raconter une deuxième fois.
Ah, mais si, Claude, un petit peu.
Ça commence bien, il sent bien.
Non, mais j'aime pas répéter deux fois les mêmes choses.
Bon, ben vas-y, raconte-nous l'histoire, Sylvie.
Ce béret appartenait à mon père, qui était un vieux coco, tu vois, qui a fait la résistance dans les FTP, qui s'est engagé au parti vers l'âge de 15-16 ans, je crois. Et il a toujours porté ce béret.
Et donc toi, tu l'as porté
et
après
une fois
lui.
Que mon père est décédé, j'ai récupéré son béret.
Et ça veut dire toujours quelque chose de très important pour toi, de porter ce béret alors ?
Bah ouais, parce que c'est un vrai coco, pas ce qu'on voit maintenant, là, pas les charlots qu'on voit maintenant partout. Et,
parce que, qu'autour du Tché, tu trouves qu'il y a quand même beaucoup de starisation.
Ouais, on en fait une petite star de cinéma, je trouvais, c'était pas ça. C'est un vrai révolutionnaire et qui s'est battu avec des armes, pas avec des paroles, ni des chansons, ni des poèmes. Il s'est battu avec des armes.
Alors justement, pour vous deux, pour Thierry et François, donc le tien, c'est pas du tout synonyme d'armes.
Ah non, pour moi, je représente, je crois, un petit peu le Parisien moyen plus, parce que je reviens de Cuba, donc j'ai eu l'occasion de me documenter juste un peu avant. Mais pour moi, c'est une espèce d'icône rimbaldien, avec une vie extrêmement romantique, qui s'est battu déjà avec l'impérialisme de sa famille, qui en est sorti et qui après s'est battu pour l'Amérique latine, pour se battant contre l'impérialisme américain, l'impérialisme soviétique aussi dans une certaine mesure. Mais si tu veux, dans mon discours, j'en parlais avec Claude, à la limite je peux parler du Tché sans parler d'armes ni de révolution. Et en ça, j'ai complètement tort. T'as raison, Claude, il s'est battu avec des armes.
Mais pour vous, ça représente quelque chose, le Tché, aujourd'hui, vous qui avez 30 ans, c'est une idéologie qu'il faut suivre encore ?
Bah, je crois qu'on est un petit peu en manque d'idéal, donc c'est une idéologie, en tout cas, qu'on nous colle, qu'on nous rabâche actuellement.
En ce moment, non, il n'y aurait pas besoin d'un Tché, en ce moment. Quand on voit Le Pen et compagnie, là, je trouve qu'on aurait besoin d'un petit Tché qui vienne foutre son souk, un petit peu, non ?
El Chi, c'est bon.
C'est qui ?
El Chi, c'est Chirac. C'est là où il faut prendre les armes. Non, il y a des moments où il faut... Il y a d'autres moyens que le terrorisme. C'est clair que El Chi, c'est une arme et l'idéal. Il a imposé un idéal en essayant de le faire avec des armes.
Mais toi, tu trouves que justement, il y a le côté négatif du Chi ?
Je pense pas que ce soit vraiment réellement un côté négatif. Je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il a le choix, c'est fait avec des armes. Une révolution, ça se fait avec des armes. Ça se fait pas avec des chansons.
Sylvie, on n'entend pas bien. Sylvie,
oui.
On a des problèmes de son, on n'entend plus très très bien.
D'accord.
Je dis ça au passage, mais c'est vrai que de temps en temps, la conversation a tendance à partir.
Bah, ils sont lancés, là, voilà, dans une discussion. Donc
et
Claude...
On va prendre les armes tout à l'heure.
On va s'expliquer dehors avec Claude et on vous reprend dans une demi-heure. Hein.
Merci.
Voilà, le problème de fond, c'est que Claude, il est plutôt donc, d'une génération de 20 ans en décalage avec Thierry François. Donc c'est plus le côté armes qui s'impose. Et donc Thierry et François, ils sont un peu moins convaincus quand même.
Ah oui, ça, on a pu l'entendre. Merci.
Vous avez compris ça ?
Ah oui.
Moi, je les laisse batailler, je vous retrouve tout à l'heure.
Tu me tiens au courant du score. Et...
Oui, je vous dis qui aura le dessus.
Voilà. C'est l'anarchie des idées, ça.
Merci Sylvie, en direct du Sud. Alors, Jeannette Abel et Daniel Ben Saïd, quand vous entendez tous ces propos de jeunes de 30 ans sur le Tché, est-ce que...
Il y a du travail, hein, dit Jeannette en se tenant la tête.
Non, je trouve que c'est... Non, franchement, ça, je trouve que c'est pas si mal, parce que derrière la Tché Mania, il y a le mythe, il y a le mythe fabriqué, il y a le commerce, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi une aspiration confuse à quelque chose dont je comprends bien qu'il incarne, qui est, comme disait Daniel, dans un monde de corruption, dans un monde de discrédit phénoménal de la politique, quelqu'un finalement qui a quitté le pouvoir. Enfin, il a eu 10 ans de vie politique, vous savez, en tout 10 ans. Mmh. Et il était ministre, il avait tout ce qu'il voulait, il avait une vie quand même qui était devenue confortable. Et un jour, il est parti, il a quitté tout ça, dans des conditions particulières, mais pour aller faire preuve de sa solidarité auprès des peuples opprimés. C'est fantastique, ça ne court pas les rues, c'est le moins qu'on puisse
dire. C'est ça, c'est ce que dit Pierre Calfon d'ailleurs. Il dit « Rares sont les cas dans l'histoire où l'on voit arriver un personnage au sommet de l'État, numéro 2 à Cuba, pour repartir dans la boue, la faim au ventre, les pieds ensanglantés, combattre son idéal. » Donc c'est ça qui fait rêver aujourd'hui Daniel Ben Saïd ?
Non, mais je crois que c'est décisif par rapport à l'image des pouvoirs institués, des révolutions qui ont mal tourné, etc. Bon, c'est une démarche assez exceptionnelle d'intégrité, de fidélité à des convictions, de fidélité à des engagements. Alors, bon, là, vos auditeurs, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, bon, poussons le bouchon un peu, mais...
Allez-y.
Non, vous dites il y a des réactions vives, y compris sur les messages Internet. Je trouve que c'est heureux et c'est une bonne chose que disons qu'il y a une affaire du Che ou une affaire Che sur laquelle on ne se réconcilie pas. Les affaires sur lesquelles on ne se réconcilie pas sont les affaires importantes. On ne s'est jamais réconcilié sur l'affaire Jésus, sur l'affaire Jeanne d'Arc, sur l'affaire Dreyfus, sur l'affaire Papon. Bon, si le Che divise encore, c'est que l'opération commerciale n'a pas tout à fait marché.
Mais Daniel Ben Saïd, quand même, dans la première partie, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que l'on dit, ce que l'on connaît, alors par peu de choses, par quelques images, quelques lectures, quelques films, quelques documentaires, et ce qui fait la part de la fiction et ce qui est la part de la réalité. On présente déjà le personnage comme communiste. Est-ce qu'il a adhéré vraiment à l'idéologie communiste ? Est-ce que ça a joué un rôle dans ses actions ?
D'après aujourd'hui à peu près les témoignages, Jeannette confirmera ou précisera, elle connaît mieux que moi, mais enfin, en tout cas, il s'est assez tôt considéré communiste, il en avait les lectures, un communiste sans parti, on peut dire. Et pour ceux qui connaissent l'Argentine et ce qu'était l'histoire du PC argentin, on comprend qu'il a eu du mal à être communiste, disons, de parti en Argentine. Mais je crois que surtout au-delà de savoir dans sa biographie à quel moment il a lu tel ou tel auteur ou il s'est approprié les idées, Jeannette rappelait que c'est une vie en accéléré. C'est ça aussi qui fait sa force. En 10-12 années, vous avez quand même le Guatemala, Cuba, la prise du pouvoir à Cuba, ministre, ambassadeur, le Congo, la Bolivie et la mort.
Oui, mais...
c'est une vie quand même considérablement remplie et qui, en accéléré, accumule trois expériences, une lutte de libération victorieuse contre l'impérialisme à sa barbe, une expérience de gestion dans laquelle il découvre, y compris les dangers bureaucratiques à la corruption intérieure possible d'un régime après la prise du pouvoir.
Gestion catastrophique quand même. Parce que quand il est ministre de l'Industrie, on ne peut pas dire qu'il fasse le bonheur des...
Ça, c'est une des choses les plus absurdes qui soient écrites.
Les plus injustes.
Les plus injustes. Parce que je ne vais pas vous raconter ici ce qu'a été la stratégie économique à Cuba. Mais enfin, le seul ministère qui ait jamais marché à Cuba, qui est un pays des Caraïbes, dans lequel la discipline au travail et le désordre, etc., sont quand même des choses assez courantes, c'est le ministère de l'Industrie. Et n'importe quel Cubain un petit peu informé vous le dira. Et le seul endroit où, du point de vue économique, on a eu des statistiques et une organisation minimale, c'était son ministère. Le reste était un gigantesque désordre. Or, on attribue au Che, en plus, une politique économique qui n'a été appliquée qu'après sa mort, hein, qui était effectivement une politique qui a été appliquée par Fidel Castro, folle, qui consistait à développer au maximum la production de sucre et puis par ailleurs à nationaliser tous les petits commerces, il n'y est pour rien.
En fait, c'est ça.
Pour rien. Il est parti en 1965 de Cuba.
Est-ce que son échec, on peut l'imputer plus à la volonté de la Russie de reprendre le contrôle ou de prendre un contrôle encore un peu plus
oui,
net
c'est à
sur...
ça qu'il s'est opposé. Il s'est totalement opposé à cela. Il l'a compris et il a été le seul dans la direction et dans le gouvernement cubain à comprendre qu'il fallait effectivement faire très attention. Et il était contre, il a critiqué ça, il a parlé des relations de dépendance que la Russie, que l'URSS, à l'époque, instaurait avec les pays sous-développés, il les a dénoncés.
Donc vous l'avez compris, ce soir, on parle autour du Che avec Daniel Ben Saïd et Jeannette Abel et on attend vos réactions au 01 45 24 7000 ou sur le Minitel au 36 15 code France Inter. You've got to think bright, to change,
to change. Éclairez-moi, je ne vois plus rien, il n'y a plus de lumière. Où sont passés les rayons de soleil qu'on nous avait promis hier? On nous avait dit qu'après la pluie, le beau temps viendrait. Soit je suis impatient ou il pleut pour l'éternité. Il pleut des larmes, des bombes et des milliers de morts. Des intempéries continuent pour savoir qui a tort. Il y a de la joie dans cette douleur, synonyme d'espoir. Croire en quelque chose servira à gommer le brouillard. Des brouillards, ça je suis obligé de l'être. Car dans ce monde il faut être et ne surtout pas paraître déraciné. Je rêve d'un retour aux sources pour bientôt. Chaleur humaine, le bien.
cherche à guérir. Ensoleillé, mais d'ici jusqu'à là-bas, c'est pas pareil. Les gens ne se préoccupent plus de leurs voisins. Chacun se replie sur soi-même et ne voit que son chemin. Tous veulent le résultat, mais peu additionnent. Et se font assassiner ceux qui coordonnent. Une coalition, une force pour apaiser les histoires. Même si je souris, je vis, dis-toi que j'en ai marre.
Jam et femme, et le titre c'est J'en ai marre. Et Che Guevara aurait peut-être ajouté mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux, qui était une des grandes phrases qu'on répète souvent dans les propos qu'il aurait tenus. Il y a deux phrases comme ça qui reviennent tout le temps.
Passionnariat.
Ouais, c'est ça. Et l'autre c'est soyons réalistes, demandons l'impossible.
À propos des citations, j'ai une par fax qui est arrivée, alors qui signait El Periodista Daniel Mermet. C'est l'homme qui se perd dans ses passions perd moins que celui qui a perdu ses passions.
Ouh là là, mais c'est pas c'est l'homme pas... qui se perd dans ses passions. Ne...
Attends, l'homme qui se perd dans ses passions perd moins que celui qui a perdu ses passions.
Passions. Ah, oui.
Ouais. Enfin bon, ça c'est peut-être la partie visible de l'iceberg. On va essayer de la comprendre davantage, parce qu'en dehors des multiples, enfin dans les multiples témoignages, réactions, oppositions, questions, interrogations, il y a des témoignages directs. Et on va savoir si aujourd'hui nous autres occidentaux, nous ne sommes pas soumis à une image simplement, puisque nous avons Carlos en ligne. Carlos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes argentin ?
Oui, je suis un psychanalyste d'origine argentine,
oui.
Et qui exerce à Paris depuis 1976.
Mmh. Est-ce que vous...
Et ce que je voulais dire, c'est que je reçois des patients qui sont soit de français, soit d'origine sud-américaine.
Oui.
Et je suis persuadé que Che Guevara représente pour beaucoup de gens à la fois une sorte d'image de grand frère. De grand frère qui aurait pris la bonne orientation. Très profondément. Je n'ai jamais connu d'image négative à propos d'Ernesto Che Guevara. Et en même temps, je pense qu'il sert d'exemple. Au sens où tout le monde se demande qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec le capitalisme mondial, etc. Et tout se passe comme si la situation était exactement la même qu'en 1965.
Et alors, Carlos, je voudrais savoir si aujourd'hui, les gens qui viennent vous voir rêvent ou vous parlent plus de Che Guevara qu'il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a une espèce de retour, de renouveau ?
Oui et non. Oui, non. Il y a eu une période peut-être plus faste, et puis c'est vrai qu'il y a peut-être un retour maintenant, mais je ne pense pas que ce soit la bonne question.
Ah bon ? C'est quoi la bonne question ?
La bonne question, c'est... les gens viennent aussi voir un psychanalyste pour voir si leur vie a du sens.
Oui.
Et quand ils découvrent qu'ils n'ont pas réussi à construire ce sens à partir des briques que leur propose la société telle qu'elle est, la société qui est sud-américaine, qui est la même, surtout en Argentine, à quelques détails près, qui est la même qu'en Europe. Mm-hmm. Et que quand on ne trouve plus de sens, on en cherche, non ?
Oui, et donc le sens, on va le chercher du côté de certaines références historiques comme Che Guevara ?
Exactement.
Et vous expliquez alors de la même manière ce mouvement qu'il y a eu au moment de la mort de Lady Di et qui se passe encore aujourd'hui, que les gens sont encore aujourd'hui à déposer des fleurs au tunnel, au pont de l'Alma
C'est peut-être un peu différent de ça, mais je pense plutôt à Marcos,
ouais.
Au Mexique.
Et à propos de l'image de grand frère, Carlos, c'est une image qui n'a pas vraiment de valeur politique, c'est plutôt une image affective.
Alors là, parce que vous faites une différence. Alors ça, c'est très intéressant dans votre propre mentalité, peut-être.
Peut-être,
oui. Qu'est-ce que c'est que la différence entre la vie politique et la vie tout court ?
Bah, attendez, moi, j'ai pas tendresse pour les hommes politiques.
Mais alors, je sais pas, moi, j'ai bien écouté votre émission.
Oui.
Et on disait bien que Ernesto avait quitté, d'une certaine façon, les oripeaux de l'homme politique.
Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh.
Pour retourner faire quelque chose, essayer de faire quelque chose, en Bolivie, notamment. Mmh.
Mais ça veut dire quoi, alors, le fait qu'il ait quitté et qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette image affective, c'est que la révolution, le changement politique est impossible ?
Bah, ça, c'est vous qui le dites.
Ah ben non, mais je vous pose la question, c'est pas une affirmation.
Mais non, les changements politiques en Bolivie sont considérables d'une certaine façon, grâce aussi à Ernesto.
Mais Carlos, aujourd'hui, les gens qui viennent vous voir et donc qui viennent pour chercher un sens à leur vie, on ne peut pas trouver autre chose comme référence. C'est vraiment le Che Guevara qui revient le plus souvent dans cette espèce de recherche de sens et ce symbole.
C'est vrai, c'est dans les rêves.
Oui.
C'est dans le... dans l'inconscient collectif, je ne sais même pas du tout cette expression qui est de Jung, qui était une espèce de fasciste. Mais si. En même temps, dans l'inconscient de chacun, de vous, de moi, Ernesto occupe une place.
Moi, j'ai jamais rêvé d'Ernesto Che Guevara, mais je ne suis pas sud-américain.
Mais moi, en 1965, je me suis mis au cigare. Alors que je détestais ça, parce que je pensais à lui, quoi. Alors voilà un détail complètement stupide, c'est trivial, mais ouais. Attendez, pourquoi les gens votent ou votent pas pour un tel ou un tel ? Ils s'identifient ou s'identifient pas ? Pourquoi est-ce que les gens suivent l'Ayatollah Khomeini ? Parce que alors là, personne ne comprend rien, parce qu'ils se sont identifiés à l'Ayatollah Khomeini. Ils se sont identifiés. Mmh. Et ça, on n'y peut rien. Ils se sont identifiés.
Bon.
Janet Abel, à propos de point de vue de Carlos, ouais. et de cette identification, grand frère.
Ah, mais je pense que ça n'est pas par hasard. Il est argentin, enfin, latino-américain. Et l'image du Che, qui pourtant n'avait pas été très présente en Argentine pendant toute une période, ressurgit maintenant avec...
Parce que vous revenez d'Argentine.
Oui, et j'ai été très étonnée parce que on le voit partout. Enfin, au point que Menem, là, le président Menem, qui est un péroniste de manière très particulière, qui privatise tout dans le pays, et qui est en train de le vendre d'ailleurs pour tout dire, a fait émettre un timbre à l'effigie de Che Guevara. Et il y a beaucoup, beaucoup de manifestations, de jeunes surtout, dans les facultés et chez les étudiants, de soutien, et avec les drapeaux, alors qu'il y a quelques années, on ne voyait rien de tout ça.
Et on remercie Carlos, mais je vous coupe, Jeannette, parce qu'il y a Sylvie, qui est donc toujours dans son café El Sud, oui. Et qui est elle aussi avec une serveuse argentine, c'est ça Sylvie ?
Oui, oui, je suis avec une serveuse argentine, et donc Paola, elle est serveuse au sud. Bonsoir Paola.
Bonsoir.
Et alors toi tu me disais tout à l'heure qu'en fait le Che, tu as beau être argentine, ça représente pas grand chose pour toi.
Ben, en fait mes parents sont français, donc déjà ils n'ont pas vécu toute la vie en Argentine. Et moi je suis retournée vivre en Argentine en 82, juste après la dictature, et on parlait pas du tout de révolution, enfin c'était quasiment interdit. Mes parents ont brûlé toutes les chansons révolutionnaires qu'ils pouvaient avoir dans les années 70 et ils sont partis de l'Argentine à cause de la dictature. Donc c'était pas un thème courant quand je suis retournée en Argentine. Ça a repris quelques années après, c'est redevenu à la mode dans le milieu étudiant, mais c'était pas un thème favori du tout.
Donc pour toi, le Che, c'était une image passée, oubliée, qui ne représente plus grand-chose aujourd'hui?
Faut dire que ça renaît aujourd'hui en Argentine, mais les années où moi j'habitais, entre 82 et 90, c'était pas du tout un thème de conversation, quoi. C'était plutôt tabou.
Ça fait peur?
Non, ça fait pas peur. Moi, je crois que maintenant, ça a complètement changé. L'image du Che, c'est surtout un héros. Ça représente la jeunesse, la révolution, mais c'est plus tellement lié à la guerre ou à la révolution communiste en soi, quoi. Je crois pas que les Argentins le perçoivent comme ça aujourd'hui.
Et toi, tu le perçois comment?
J'ai pas une opinion vraiment faite sur le Che. Non, pour moi, c'est aussi un héros.
Mais qu'est-ce que tu connais du Che, toi? Qu'est-ce qu'on t'a appris du Che?
Ce que j'ai appris du Che, je l'ai appris dans les dernières années en voyant des documentaires, mais j'étais vraiment pas au courant de qui c'était jusqu'à très tard, quoi. Jusqu'à mes 18 ans, je n'avais jamais entendu parler.
Merci beaucoup, Paola.
Merci, Sylvie. Et alors, je voudrais justement avoir le point de vue de Daniel Ben Saïd sur ce que disait Carlos, et aussi s'il veut apporter des réactions sur ce que disait Paola, par rapport surtout à cette recherche de sens dont parlait Carlos.
Le problème de la résurgence, aussi d'ailleurs un peu inattendue à ce point-là, hein, de la figure du Che, mais de l'intérêt pour sa vie, pour ses actes, etc. Moi, je crois qu'il y a trois éléments en un mot chacun. D'une part, la disparition de l'Union soviétique, qui quand même a déblayé d'une série de décombres et posé un petit peu à plat le problème de ce que peut être une révolution, une espérance révolutionnaire au seuil du prochain millénaire. Le deuxième élément, je crois, c'est le désenchantement par rapport... Paola disait, le milieu des années 80, ses parents brûlaient les chansons. Ben oui, c'était en pleine offensive libérale, les années tapis ici, avec les illusions sur la prospérité du marché, de la démocratie de marché, etc. Aujourd'hui, ce que je considère ces illusions sont écroulées en revanche. Et donc, des jeunes et des moins jeunes ont l'idée, pour la première fois depuis 50 ans, qu'on va vivre à l'avenir, non pas mieux, mais plus mal que dans les années passées. Donc il y a un problème d'ouvrir une brèche dans ce mur de vent, et le Che est un peu cette brèche, cette volonté qui n'a jamais renoncé à ouvrir cette brèche.
Eh bien alors, je sais ce qu'on verra justement dans la deuxième heure, c'est cette brèche. Que représente cette brèche aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sur France Inter Zinzin, on attend toujours vos réactions au 01 45 24 7000 et sur le Minitel 3615, code France Inter.
Approchez, approchez, ménagères, et voici le couteau qui ouvre en une minute, pas 12, pas 18, pas 24, mais 46 huîtres.
Oh, regarde, Pupus.
T'arrêtes pas, c'est n'importe quoi.
Mercredi 15 octobre, super cagnotte de 60 millions de francs au loto.
Combien d'huîtres, vous dites?
Pas 12, pas 18, pas 24.
Moins vite, s'il vous plaît.
60 millions de francs au loto, c'est mercredi 15 octobre. Le loto est un jeu de la Française des Jeux.
Il est 21h et vous êtes sur France Inter. Les informations présentées par Odile Martin.
Muchas gracias, Odel Martín. Voy a traer la información a Vendedor. ¿C'est ça? Sí, sí. Gracias, gracias, mille.
Non, ça doit être de l'italien.
Je oui, je crois, oui.
Non, mais c'est vraiment nul, les langues. Ouais. Merci.
Non, et... mais c'est l'Europe, tu sais.
C'est... Oui, c'est ça, moi, je parle. C'est l'espéranto.
Tu parles européen.
Je parle espéranto et tout. Et alors, on continue notre petite discussion autour du marché du tché avec Jeannette Abel, qui est donc sociologue et enseignante à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Daniel Ben Saïd, qui est philosophe et qui vient d'écrire un livre, Le Paris mélancolique, édité chez Fayard. Et alors, il y a une phrase que j'ai trouvée de Régis Debray, que je trouve assez intéressante, qui dit « Commençons par écarter tous les faits pour nous en tenir aux choses sérieuses, de point les légendes ». Vraiment, aujourd'hui, pourquoi vous disiez ça? C'est Daniel Ben Saïd qui est intéressé. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai prêté une phrase au Tché qui apparemment ne lui appartient pas. Soyons réalistes, demandons l'impossible, ce n'est pas de lui. Quand on commence à s'intéresser à lui, on voit qu'il y a eu plein de surnoms. On l'a appelé Papa, on l'a appelé Ramon, on l'a appelé El Zorro. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces légendes, Daniel Ben Saïd?
Ouais, comment la mémoire travaille sur un événement? On produit toujours une narration, une légende. Si vous voulez, on a un rapport à la Révolution d'octobre qui est en grande partie vu à travers Eisenstein, la caméra d'Eisenstein. Bon, aujourd'hui, le rapport au Tché pour le grand public, c'est pas les textes politiques, c'est les photos, la mise en scène. Alors, le problème, c'est de savoir s'il peut y avoir un usage autre que religieux des légendes. Debray est obsédé par la question des phénomènes de croyance. Bon, évidemment, c'est pas complètement frivole, puisque les grandes manifestations de l'été, que ce soit les JMJ ou les Didi, sont des manifestations religieuses. Alors bon, le Tché est doublement menacé d'une récupération religieuse, d'une canonisation, le mausolée, moi ça me plaît pas.
D'ailleurs, la récupération religieuse, il n'avait aucune confession, puisqu'il est communiste, athée.
Non, non,
c'est ça.
Non, non. Mais je parle de religion, même pas instituée, oui, oui. Mais bon, y compris le rituel du mausolée. Tout, bon.
Ouais, parce que vous parlez dans votre livre, Daniel Ben Saïd, de cette commémoration aussi en grande pompe de la création du mausolée de Lénine par Staline, qui était une manière aussi de justifier le pouvoir ou d'accentuer ou d'effacer toutes les erreurs ou les dérapages. C'est ce qu'on voit actuellement aussi à Cuba avec Fidel Castro.
Dès qu'on crée un culte, parce que là, en tout cas dans le cas des obsèques et de l'embaumement et du mausolée de Lénine, c'est vraiment la fondation délibérée d'un culte qui a une fonction de légitimité du pouvoir qui s'assied dessus. Hein, c'est la légitimité des origines. Je crains qu'aujourd'hui...
Ce soit un peu la même chose à Cuba.
C'est pas les mêmes conditions, c'est pas le même contexte, mais en tout cas, ce rituel-là, bon, me paraît toujours suspect.
Il faut quand même préciser que justement, ce mausolée, on a essayé de récupérer les derniers restes d'Ernesto Che Guevara dans cette Villa Grande en Bolivie. Merci Jeannette Abel. Et que alors c'est assez, ça prête un peu à sourire parce que je crois que Fidel Castro tenait absolument pour ouvrir le Congrès du Parti communiste à Cuba, d'avoir récupéré des restes, et donc il a envoyé des chercheurs là sur le qui ont fait des forages sur ce terrain d'aviation, et puis on a dépêché un scientifique dont on n'est pas vraiment sûr à 100% de ses capacités, de ses qualités, mais bon, il fallait à tout prix trouver quelque chose, et apparemment on a trouvé quelque chose, quoi.
Je comprends l'analogie que Daniel fait, mais d'abord en Amérique latine, les lieux de mémoire et le rapport à la mort n'est pas le même qu'en Europe. Oui. C'est très important quand quelqu'un est mort de récupérer ses restes. Hein. Donc ça, je ne vois pas là, oui. On peut dire qu'il joue sur tous les tableaux, qu'il y a une manipulation, mais de la part de la famille et dans l'imaginaire populaire, le fait d'avoir récupéré le cadavre du Tché, c'est quelque chose dans la symbolique qui est essentiel. Et pas seulement à Cuba.
Cuba. Vous savez qu'au Mexique, les paysans sont toujours opposés au transfert des cendres de Zapata, de son village à Cuautla. Plusieurs fois, le régime a voulu lui faire justement une sépulture officielle à Mexico. Les paysans montaient la garde et refusaient que la dépouille parte à Mexico. Ouais. Ça, c'est vrai.
Mais dans ce que vous venez de dire aussi, Jeannette, il y a Ce qui ressort de ce que disait Carlos, notre auditeur, tout à l'heure, une sacrée différence culturelle entre l'Europe, la vieille Europe, et l'Amérique du Sud. Et l'exemple est frappant autour du Che, quand Carlos parle de cette projection affective sur le personnage. Aujourd'hui, nous, on ne le ferait pas sur un personnage aussi charismatique soit-il dans sa figure. On ne va pas faire nécessairement une projection, surtout quand il a eu un effet politique.
Les Didi, c'est moi, je suis
non, mais attends,
la projection.
Les Didi, c'est...
Bah oui, mais justement, c'est rien par rapport à Che Guevara.
C'est point de vue image, quoi.
mais c'est rien. Oui, et à côté de ça, il y a une espèce de...
Attends, on n'a pas vu Che Guevara, heureusement, dans point de vue image du monde. Enfin, c'est quand même une nuance, quoi. Il y a eu quand même une action, c'est un réseau d'activistes politiques, il y a eu quelque chose, enfin, il y a eu du concret, il y a eu des réalisations et beaucoup de
choses. Ah oui, non, je crois que ça a une signification.
Mais est-ce que nous sommes capables d'assimiler le rôle et ce qu'il a été vraiment?
Je pense moins qu'en Amérique latine, mais on en a un petit peu, on l'a rappelé tout à l'heure, on assimile le fait qu'il apparaît comme un personnage qui a un rapport au pouvoir, en tous les cas, radicalement différent. Et ça me semble plus important.
Il y a quelque chose quand même qui doit frapper. Vous demandez si on peut assimiler. Le fait est, alors après on peut s'interroger sur le fait, mais le fait est que c'est une image extraordinairement universelle. Extraordinairement universelle, qui parle en Asie, qui parle en Europe, qui a été populaire aux États-Unis. Et vous vous étonniez tout à l'heure, je crois, à propos de l'intervention de Carlos, du rapport entre l'affectif et le politique, mais enfin, les affaires de révolution sont des affaires d'émotion et de passion. Bon, après, il y a éventuellement les cendres, mais. Et cette dimension, je crois. C'est ça, le Che ne peut pas être perçu comme un politicien. Parce qu'il n'y a pas cette dissociation de la morale et de la politique, de l'engagement, des émotions et de l'idéologie. Ça, je crois que c'est quelque chose de très fort.
Eh bien, on verra la suite de ce rapport entre l'émotion et la politique après Buena Vista Social Club. De Cuba, et vous avez le téléphone, c'est le 01 40, 45 24 7000 ou le Minitel 36 Côte France Inter.
Llego a puerto, voy para Mayarí.
Jeannette Abel nous disait que Buena Vista Social Club était une musique qu'on entendait typiquement au Tropicana. C'était la bonne musique de là-bas, à Cuba. Jeannette, vous confirmez?
Pas la bonne, la mauvaise.
Ah bon?
La mauvaise, celle qu'on entendait dans le bar qui était réservé avant la Révolution aux Américains. Donc, oui. Musique d'ambiance.
Ouais, d'accord. Et donc, on continue autour du Che, juste avec... Il y a cette phrase de Jean-Paul Sartre que je trouve assez étonnante, qui disait, à propos du Che Guevara, c'est l'être humain le plus complet de notre époque. Alors, je voudrais savoir, Philippe, les réactions.
Elles sont nombreuses. Je ne sais pas quelle est la qualité des commémorations. Enfin, les effets. Il y a peut-être un bon effet qui est de s'interroger pour ceux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas été contemporains de la grande période de Che Guevara, de s'interroger rétrospectivement sur la portée historique du personnage. Et puis à l'autre côté, de faire des amalgames entre différents anniversaires en disant finalement, on oublie, on pense à certains, mais Che Guevara fait certainement l'ombre à d'autres personnages, leaders politiques, figures charismatiques aussi. Exemple, Eric qui nous dit, c'est aussi le 18e anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Ne peut-on en parler, car ils sont souvent plus ou moins associés tous les deux. Il faut savoir que Sankara a dirigé l'ex-Haute Volta, le Burkina Faso, et que ça a été aussi une figure, à un moment donné, qui a tenté de redresser l'économie catastrophique de ce pays, comme bon nombre de pays d'Afrique noire. Il était militaire, comme la plupart des chefs d'État africains. Il était soutenu par la France, comme la plupart des chefs d'État africains. Ce qu'on oublie, c'est qu'il écrasait les gamins dans les rues de Ouagadougou avec sa belle Jeep, ouais. Et que les gens crevaient dans la brousse pour la moindre toux.
Donc voilà, c'est pas la même chose.
Non, mais les commémorations avec les parallèles, ouais. il faut s'en méfier. Enfin, voilà pour les hommages.
Moi, j'écoute Zinzin sur France Inter.
Alors, il y a des hommages et puis il y a des symboles.
C'était François de Gueldre qui chantait.
Ah oui, c'est vrai.
1967. Ça vous rappelle des souvenirs, ça?
Non, pas du tout.
C'est lui qui chante. C'est quoi déjà la chanson qu'il chante qui est très... Le soleil, la mer, et voilà. Ouais.
Il y a le soleil, la mer. D'ailleurs, on rouspète, les auditeurs qui disent « Pourquoi vous n'évoquez pas la mémoire de Colette Magny, qui, elle, a bien chanté
Che Guevara ?»
On le fera à l'occasion. Alors, à propos des commémorations, et de la légende aujourd'hui, il y a une valeur symbolique dans la personnalité de Che Guevara. Georges, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, quel symbole il est devenu aujourd'hui, Che Guevara?
Disons que pour moi, j'ai 50 ans, Che Guevara, c'est un personnage central, hein. Mais ce que je voulais surtout, mon témoignage, c'est par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Donc je travaille là-bas depuis des années et des années. J'ai vécu les événements de Nouvelle-Calédonie. Et ce que je voulais dire, c'est que le Che, chez les Kanaks qui ont 30, 40 ans, enfin, qui ont vécu les événements, et chez les jeunes Kanaks maintenant, le Che, c'est quelqu'un d'important. Et comme je disais tout à l'heure... La personne qui m'avait reçu au téléphone, ils connaissent pas vraiment le parcours du Che. Mais pour eux, le Che, c'est quelqu'un de pur, d'intègre, et donc c'est un exemple à suivre.
Mais on en connaît quand même trop peu de choses. Pierre, un autre correspondant, dit « Croyez-vous que si le Che ressemblait à un Fabius ou à un autre, on fêterait les 30 ans de sa mort. Il serait bon d'en parler, car les jeunes ont une image creuse de cet homme. »
Oui, c'est vrai. Mais enfin, disons que, par exemple, moi, j'ai vu des gens sur les barrages en Nouvelle-Calédonie avec le béret du Che. Bon, et ils avaient le parka, le truc. Mais pour eux, c'était... il est certain que le physique du Che, il était très, on l'a dit sur une je sais pas si c'est Zinzin ou chez Jean Lecaisse, mais enfin c'est un mec très beau. Mais enfin, donc ça a joué sûrement. Mais disons chez les, moi je parle des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, pour eux c'est un mec auquel ils peuvent se raccrocher.
Oui, mais est-ce que ça, en dehors de l'apparence, de la volonté de s'assimiler aussi au personnage tel qu'on le voit à travers les différentes images, est-ce que ça a des incidences sur leur comportement?
Sur leur comportement, je sais pas trop, mais disons que pour eux,
l'homme qui est intéressant, enfin disons qui existe actuellement, bon, c'est pas Fidel Castro, c'est pas le communisme, c'est le Che. Et donc ils essayent de, c'est pas qu'ils, ils connaissent pas vraiment. Mais c'est, on revient un peu à ce que disait tout à l'heure, c'est un peu irréel. Mais ils s'accrochent, ils s'accrochent à cette espèce de, je dirais pas de légende comme on l'a dit, mais à cette espèce de mythe. Mais en même temps, moi j'ai vu des gens, bon, qui ont 35 ans, qui avaient des textes de Che Guevara, qui a essayé de retrouver des Kanaks dans leur case pour essayer de savoir qui était Che Guevara. Et pourtant, Dieu sait si les Kanaks ne sont pas des, vraiment des lecteurs. Enfin, c'est important, quoi. Bon. C'était important.
J'espère que vous n'avez pas mis tous les Kanaks à dos, on n'était pas des lecteurs.
Ah, non, non, mais moi, je retourne bientôt en Nouvelle-Calédonie, je travaille là-bas, il n'y a pas de problème là-dessus.
Merci, Georges.
Voilà.
Vous avez une réaction, Jeannette?
Oui, j'étais en train de me dire que le Che serait furieux s'il voyait tout ce qui est en train de se passer. Il serait, mais ça, j'ai aucun doute, absolument déchaîné. Il l'avait dit un jour en rendant hommage à Camilo Cienfuegos, qui est un autre dirigeant de la Révolution cubaine. Il a commencé son discours en disant « Les hommages, ça m'emmerde ». Et ensuite, il a expliqué pourquoi, et je crois qu'il serait absolument et furieux du culte et du mausolée, de tout ce qu'on raconte, et surtout du fait qu'on escamote beaucoup ses idées et beaucoup sa pensée quand même. Et
oui. Enfin, il était quand même pas soucieux de son image, mais sensible à son image. J'ai lu une anecdote où il était sur sa jument, là, il marchait, et puis à un moment, il a pris une hache à un des gars qui était avec lui, et puis il a fait « Je suis le Bolivar 2 ». Il y avait une espèce de provocation, un petit peu quand même aussi chez lui. C'était pas...
Je crois qu'il était capable d'être très provocateur, oui, mais essentiellement, c'était au service d'un objectif fondamental qui était changer l'ordre social existant. Oui. Il voulait un changement radical de société. Et c'est ça qui l'intéressait, qui a guidé tout ce qu'il a fait.
Et d'ailleurs,
ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, ce qui est en plus rare.
Hein. Changer la société, Daniel Ben Saïd, c'est une de vos, un de vos angles de réflexion majeurs. Vous l'avez écrit dans Le Monde en 96. Notre siècle obscur s'achève dans la débâcle désespérance en un monde meilleur, transparent et pacifié, qu'il avait suscité. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon vous, peut susciter un élan de foi ou un peu plus de confiance dans cette absence de confiance, dans ce doute ?
Bon, je crois, pour inverser une formule littéraire, je crois qu'elle est de Saint-Proul, non, on peut avoir moins d'illusions sûrement qu'au début du siècle. Au début du siècle, Les socialistes pionniers, vous avez un film de Margaret von Trotta, où on voit le 1er janvier 1900, ils croyaient que le siècle serait le siècle de la libération générale, d'une société réconciliée, heureuse et pacifique. Bon, on va rentrer dans le 21e avec beaucoup moins, effectivement, d'illusions. Pas moins de convictions, parce qu'après, c'est un problème de résistance. C'est pas un problème de savoir s'il y a des modèles, pas des modèles. C'est qu'il y a une injustice, il y a une exploitation, il y a une oppression, donc une résistance. Et je crois qu'à partir de là, il faut disputer l'image du Che. C'est une bataille d'image et de mémoire. Alors, il y a la légende d'un côté qui tend à vider de contenu politique. Je crois, au contraire, le pathétique de la mort du Che, sûrement qu'inconsciemment, je ne parlerai pas d'inconscient collectif, mais qu'inconsciemment, ça chemine, c'est qu'il avait une course, pas seulement contre sa mort, mais contre une catastrophe. Il faut situer les années, quand même. La guerre du Vietnam, la chute de Ben Bella en Algérie, Le massacre de 500 000 communistes indonésiens. Donc c'est toute une période des luttes de libération qui commence à se refermer. Et ce qui apparaît comme une fuite en avant du Che, c'est l'obsession pour briser le cercle, briser l'encerclement, sans quoi, bon, le poids, encore une fois, de la mainmise soviétique sur le camp socialiste, sur Cuba, sur les pays d'Afrique qui commencent à se libérer, sera encore plus fort. C'est un message fortement politique. Alors, je ne dis pas qu'il est reçu comme tel, que les gens lisent,
Mais il y a forcément quelque chose qui se propage de ça dans la confusion.
Et d'ailleurs, vous disiez... j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est pas grave, on va retrouver Sylvie Hasbrouck en direct du Sud.
Alors moi, je suis en train de reprendre une conversation avec Thierry François. Il y a Vincent qui nous a rejoint. Vincent, c'est le patron du Sud. Bonsoir.
Bonsoir.
Et alors, Thierry me disait, là juste maintenant, en fait, que pour lui, le gros problème du Tché, c'est un peu quand même quelque chose d'un peu passé, parce que la révolution aujourd'hui, c'est plus possible comme avant.
Ah, moi, j'ai pas dit ça du tout, mais par contre, les mojitos et tout, on a largement dévié, et on était en train de parler des 35 heures, en fait, et ah que, oui. Actuellement, la sensation que moi, j'en avais, en tout cas, c'est qu'en France, y a plus, on a toujours besoin d'un tché près de chez soi, en fait, et qu'on laissait les gens se battre sur une belle idée, qui les 35 heures, et en fait, on laisse le gouvernement se battre, avec le patronat, avec les syndicats, sans qu'il n'y ait aucune action qui vienne des gens qui sont vraiment concernés par ces 35 heures.
Mais toi, tu me disais quand même qu'une révolution aujourd'hui, ça coûte trop cher.
Ah, ça coûtait vachement cher. Je ne sais pas si vous savez que actuellement le super est à 7 balles. Donc 7 balles, un litre de super. Une bouteille de vin qui va bien, c'est 25 balles. Donc ça fait 32 balles déjà, rien que pour le contenant et le contenu. Plus la mèche, ça doit faire 35 balles. Et la manœuvre, qui doit être pas loin de 80, on arrive à 100 francs. Le cocktail Molotov.
Et malgré tout, on en a quand même besoin d'une révolution aujourd'hui.
Il y a des moments, il n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'autre choix que de prendre les armes. Mais surtout, on devait dire tout à l'heure avec Thierry, c'est vrai que le Tché, c'est aussi un peu le James Dean de la révolution. Et toi, Sylvie, qu'en penses-tu en tant que fille?
Attends, Sylvie.
Oui.
Quel âge a ton interlocuteur là?
Ils ont 30 ans.
Ouais, et à 30 ans, on a... comme souhait, comme possibilité, comme ouverture, comme disait tout à l'heure Daniel Ben Saïd, ou comme brèche, la lutte armée, mais c'est incroyable, on est en 97 quand même.
Aujourd'hui, à 30 ans, vous avez comme revendication une lutte armée pour changer tout ça?
Enfin, ils sont quand même au café.
Je ne sais pas si j'ai une lutte armée, enfin moi je ne revendique pas une lutte armée, mais je me demande si on n'est pas dans une société qui est dans un état, enfin pré-révolutionnaire entre guillemets, dans la mesure où je ne sais pas si c'est les hommes politiques qui sont au pouvoir qui ont... réellement le pouvoir ou leur cabinet et ces gens qui travaillent dans l'ombre qui signent un petit peu tous les documents. Et moi, c'est pour moi, c'est tous les éléments d'une révolution.
Merci Sylvie, toujours.
On va finir par croire que le Sud est un repère de
bolchevique
attardé, ouais. À en croire les propos de mon collègue.
Non.
En fait, pas du tout, il est très gentil, mais c'est vrai que le mojito le rend un peu agressif.
Ah oui, c'est ça, c'est d'accord, ça, c'est... l'explication.
Elle nous avait prévenu, Sylvie, en début d'émission, que le mojito, fallait pas en abuser.
Exactement.
Mais ça tombe bien, parce que c'était exactement ce que je voulais aborder tout à l'heure, Daniel Belsaïd, j'avais perdu le fil de ma pensée. C'était, est-ce que si aujourd'hui, Che Guevara était là, il se battrait contre ce dont on a parlé hier avec Alain Minc, la mondialisation, est-ce que ça serait par exemple un de ses chevals de bataille, est-ce que les 35 heures, ce serait une espèce de ça serait son combat aujourd'hui selon vous?
Ben, je crois qu'en se battant sur divers fronts, dans divers pays, dans divers continents, il s'est battu pour une humanité réellement universelle, alors que la mondialisation fabrique aujourd'hui de l'inégalité, une humanité en miettes et davantage d'injustice parce que c'est une mondialisation marchande et tout simplement par la concurrence sauvage et le marché. Donc, comme les apatistes se sont soulevés un 1er janvier 1994, au moment où rentrait en vigueur le marché nord-américain, le marché commun nord-américain, je pense que le Tché serait en lutte comme il l'a été à l'époque contre l'impérialisme. Mais je voudrais dire une chose sur un thème qui revient souvent, c'est l'histoire de la violence et de la lutte armée. Je crois que c'est effectivement une composante forte du personnage, en tout cas de l'image. Et je crois qu'on peut le comprendre par rapport à l'époque où c'est une forme de résistance armée, arme extrêmement inégale. C'était la preuve que malgré la bombe atomique, malgré les tapis de napalm au Vietnam, etc., on pouvait résister. Et les armes, ces petites armes finalement assez artisanales, étaient le symbole de ça. Aujourd'hui, beaucoup de vos auditeurs jeunes disent « le Tché ». Mais la violence, la lutte armée, c'est pas évident, etc. Je crois que le rapport à la violence a changé dans 20 ans parce que, entre-temps, il y a eu des désastres. Le Cambodge. Bon, on peut pas avoir un rapport aussi simple et direct à la violence, et notamment à la violence armée, 30 ans après, vu ce qu'on a connu entre-temps. On se rend bien compte qu'il y a là quelque chose de plus problématique.
Mais Jeannette Abel, tout à l'heure, expliquait qu'il y avait des difficultés pour comprendre les options prises par le personnage. Or, il avait quand même la faculté de brouiller les pistes. Il était communiste en lettres vraiment. Enfin, il était plus par compassion que par intérêt au calcul. Il a tenté un petit peu la trésorerie, de tenir la trésorerie, puisqu'il était entre autres président de la Banque nationale de Cuba. D'ailleurs, on raconte une anecdote, vous pourrez nous dire tout à l'heure si c'est vrai ou pas, à propos de sa nomination. Il a été ministre de l'Industrie pendant quelques années avant de repartir sur un autre front de bataille. Il a été au Congo, là où il a tenté aussi d'avoir une véritable activité sur le terrain, et en rencontrant Kabila, qui n'était pas apparemment prêt à suivre Che Guevara. On est perdu quand même dans le personnage. Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qui a pu guider ses actions ?
Parce qu'il faut retourner effectivement dans reprendre le contexte des années 60, c'est-à-dire que c'est un contexte d'émergence du tiers-monde, d'émergence des luttes de libération, de conquête de la souveraineté nationale. Bon, et ça, c'est évidemment vrai pour l'Afrique. À l'époque, après l'assassinat de Lumumba, l'Afrique apparaît comme un continent qui est en pleine ébullition et dont les pays sont en butte à l'oppression. C'est évidemment vrai pour l'Amérique latine et c'est vrai pour l'Asie parce qu'il y avait le Vietnam. Donc son mot d'ordre, qu'on a souvent aussi déformé, quand il dit à un moment donné « il faut créer un 2-3 Vietnam », ça ne veut évidemment pas dire qu'il veut exporter la révolution comme ça de manière artificielle. Ça veut dire qu'il est solidaire de ses combats, qu'il veut en être partie prenante. C'est pour ça qu'il ira au Congo et en Bolivie, par ailleurs parce qu'il ne peut pas rester à Cuba. Mais il a la compréhension, je crois, il est un des rares, et c'est peut-être ça aussi qui le rend universel aujourd'hui, c'est que le théâtre de la lutte est international. Et il le comprend, ça, à partir de ce tiers-monde et de ces trois continents. Et si on se remémore la portée de la guerre du Vietnam aux États-Unis, si on se remémore ce qui se passe à l'époque en Amérique latine et en Afrique, on comprend que cette dimension aujourd'hui colle au contexte dans lequel on est. Hein, et elle apparaît comme l'image inversée, je dirais, de la mondialisation telle qu'elle apparaît pour nous.
Joissard, Daniel Bettey, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à préciser sur cette foi dont parlait Philippe ? Qu'est-ce qui a poussé Che Guevara dans tout ce parcours et dans tout ce voyage qu'il a fait ?
Je reprends l'idée qu'il y a une course de vitesse, parce qu'effectivement, assassinat de Lumumba, il y a des revers qui commencent à ce moment-là, ce n'est pas une voie toute droite. Et par rapport à ça, il est confronté quand même à des appareils très très lourds à remuer. Pas seulement l'appareil soviétique,
la bureaucratie,
mais les partis communistes en Amérique latine. Donc l'idée, finalement, c'est que ce qui a marché à Cuba peut marcher. On peut créer l'événement. Et il y a une certaine lucidité sur les risques. Hein. Et bon, il le dit dans ses textes, beaucoup mourront victimes de leurs erreurs. Ou alors, je crois qu'il s'identifie, la formule m'a toujours paru très belle, la tragique solitude du peuple vietnamien. C'est cette solitude qu'il faut briser. Et il y a une urgence à le faire, avec la prise de risque qui va avec. Mais c'est une prise de risque lucide, pas suicidaire. C'est avant tout un choix, une démarche politique. Et même dans la défaite, c'est un message politique qui est transmis, pas un message de mort, mais de résistance.
En Bolivie, on a quand même une légère impression de presque de suicide, quoi, de se jeter là-dedans avec si peu d'hommes et tout.
Non, mais là il faut reprendre l'aspect politique, effectivement, qu'on connaît mieux aujourd'hui. C'est que les conditions du départ en Bolivie et le choix de la Bolivie sont en partie contraintes. C'est-à-dire, en gros, les Soviétiques ont fait en sorte qu'ils ne puissent pas revenir ou qu'ils doivent partir de Cuba. Et y compris, maintenant, il y a des hypothèses sur le choix de la Bolivie, selon lesquelles ce n'était pas forcément exactement son choix à lui, mais un montage négocié entre la direction cubaine, les Soviétiques, le PC bolivien. Bon, qui n'étaient évidemment pas les meilleures conditions.
Ouais. Mais Daniel Bessay, tout à l'heure, Hervé, en ouverture d'émission, vous avez soumis ce qui pouvait justifier cette vie accélérée sur 39 ans de Che Guevara, oui, bien remplie. Peut-être une lutte contre la mort via sa maladie. Est-ce que ce n'était pas une lutte contre le temps ? Le vrai révolutionnaire doit sortir ce temps et casser l'histoire.
Non, c'est surtout une vie d'homme pressé, mais cette presse. Enfin, écoutez, finalement, aujourd'hui, 30 ans après, il y avait bien des raisons d'être pressé. C'est que les chances à l'époque de donner un autre destin à l'humanité, de prendre une autre voie, étaient ouvertes, ou on pouvait penser qu'elles l'étaient, beaucoup plus qu'elles le sont aujourd'hui. L'idée qu'il y avait une opportunité à saisir dans cette vague de mouvements de libération, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que le couvercle est beaucoup plus lourd.
Moi, mon petit, j'ai jamais su ce que c'était que l'amour.
Je croyais. Jamais. Je suis fatiguée. J'en veux plus. J'en peux plus, excuse-moi.
pense que le temps ne tresse pas autant. Tu me disais que force de grimace de l'écran, que je finirais par te foutre en l'air. Maintenant t'es plus là, et t'es toujours là. Y'a pas pire que ce qu'on voit pas.
Je crois
que la peur t'es plus là.
Jamais.
Jean Barre, tu croyais, vous êtes sur France Inter, c'est Zinzin, et on est toujours autour du Tché avec Daniel Ben Saïd et Jeannette Abel, et beaucoup de réactions, Philippe Bertrand.
Alors comme la question aujourd'hui est pourquoi ce marché, cette effigie qui fonctionne bien dans les cafés comme dans d'autres lieux publics où est diffusée cette image, et pourquoi les jeunes aujourd'hui reviennent à s'intéresser au personnage de Che Guevara. Nous avons Laurent avec nous. Laurent, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, Laurent, vous êtes enseignant ?
Oui, je suis enseignant. Oui.
Et vous avez des élèves de quelle classe ?
J'ai des élèves de première et de terminale, et cet après-midi, j'ai eu une discussion avec des élèves de terminale en cours de philosophie sur... qui portait sur l'actualité, parce que j'aime bien les faire s'exprimer un petit peu sur l'actualité la plus récente. Et on a parlé à la fois du procès de Papon et de l'anniversaire de Che Guevara. Et moi, je me suis retrouvé dans une position un petit peu inconfortable. Et c'est une question que je voulais poser un petit peu à tous les gens présents sur le plateau. C'est comment est-ce qu'on fait ? Alors moi, il faut que je rajoute, j'ai 30 ans, je suis né en 68, j'ai été élevé dans une espèce de contre-culture qui me plaît beaucoup, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas passer pour un, si vous me permettez l'expression, un vieux con d'enseignant, quand on essaye de freiner un petit peu l'ardeur commémorative de tous ces étudiants, parce qu'aujourd'hui elle concerne Che Guevara, mais il y a quelques années ou il y a quelques mois encore, elle concernait Malcolm X. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'erreur ? Est-ce qu'il faut laisser les illusions aux élèves au risque de les voir progressivement se détacher, se désenchanter, et puis finalement ne pas accorder trop d'importance aux thèses, aux véritables thèses exposées par le Che.
Alors Laurent, avant de demander la réponse de votre confrère Daniel Ben Saïd avec nous et de Jeannette Abel, il y a Félix qui va peut-être vous donner une réponse. Félix, bonsoir.
Oh, bonsoir.
Félix, vous, qu'est-ce que vous pourriez répondre à Laurent sur le besoin de freiner les ardeurs de ces enfants, enfin des jeunes aujourd'hui, qui sont prêts à utiliser, récupérer l'image de Che Guevara sans en comprendre vraiment le fond et l'importance?
Oh, c'est difficile de répondre par rapport à ce que peuvent penser les jeunes par rapport à Che Guevara, mais je crains fort que ce soit plus un phénomène des modes, d'une célébration, plus que d'une connaissance réelle du personnage.
Oui, alors la connaissance réelle du personnage, vous l'avez quasiment directe.
Oui, c'était les hasards de la vie, parce que quand j'avais 8 ans, avec mes parents, nous sommes allés vivre à Cuba pendant un an.
Oui.
Mon père avait un poste assez important au ministère de l'Éducation sur place. Il a fait des programmes pour les élèves de secondaire, du lycée là-bas. Et vu les fonctions qu'il avait, il a été amené à côtoyer beaucoup les personnels gouvernementaux. Et mon père a très bien connu Che Guevara, plus pour des raisons de travail et autres. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir 3 fois. Je préfère modestement dire le voir. Je ne peux pas dire que je le connaissais. Ouais. Je l'ai vu 3 fois. La première fois, c'était dans une réception faite par le président de Cuba. C'est un poste qu'on oublie de nos jours. À l'époque, il y avait un président de la République. C'est un monsieur qui s'appelait Raúl Dorticos. C'était un poste honoraire, évidemment. Et dans une réception qu'il avait offerte, nous nous sommes
Félix, on va vous demander d'aller assez vite parce qu'il est 21h41.
Et surtout, ce qui serait peut-être important pour nous, c'est de savoir ce que votre père vous en a dit. Parce qu'on a remis en cause son efficacité en tant que membre du gouvernement. Est-ce qu'il y avait une véritable efficacité telle que votre père vous en a parlé?
Disons qu'à Cuba, on peut dire que tout était fantastiquement désorganisé. Hein. Rien n'est marché comme il fallait. Donc, si on n'a pas en tête cet esprit, je crois qu'on peut les comparer aux premières années de la Révolution française. Non, c'était des jeunes qui avaient pris le pouvoir. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait plus d'inexpérience qu'autre chose.
C'est-à-dire, sur le terrain, à l'époque, ça ressemblait plutôt à du bricolage?
Et bricolage, c'est déjà un bien grand mot. Vous savez, tout c'était au fait au jour le jour, vous voyez. Donc, il n'y avait pas des choses planifiées. Et je crois que peut-être le Che Guevara, c'est qu'il l'a choqué, il l'a fait, je crois, fâcher avec Fidel Castro. C'est un anticonformisme permanent. Pour moi, quand je l'ai vu, c'est une légende vivante. Ouais. Que j'avais devant moi, ouais. C'était quelque chose d'impressionnant, non?
Et Félix, je suis désolé parce que... Mais c'est vrai que votre point de vue était essentiel pour rapporter aussi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, ce que votre père aussi a vécu. Une façon de répondre à Laurent. Parce que le personnage était déjà entré dans la légende de son vivant. Alors, Daniel Ben Saïd et Jeannette Abel, qu'est-ce que vous avez à répondre à Laurent, deux mots
En tant que confrère et collègue, c'est pas une question de pédagogie. Je comprends le souci qu'il a de pas alimenter des croyances qui, par définition, peuvent être fragiles. Mais je crois qu'il y a un bon usage de la curiosité de la mémoire. Il évoquait Malcolm X. Bon, aujourd'hui, on est dans un monde d'histoire pulvérisée, d'instantané, de scoop. Bon, l'intelligibilité de notre monde dépend de la capacité quand même à retisser des liens de mémoire, un fil de mémoire. Alors, s'il y a une curiosité aujourd'hui, elle a peut-être un versant mode, un versant gadget, un versant commercial, mais elle ouvre un espace dans lequel je crois qu'on peut développer une explication historique, des lectures. Finalement, la meilleure arme contre le mythe, c'est la politique. C'est la politique, c'est, je ne parle pas de la politique politicienne, mais l'engagement politique, c'est une manière profane de se comporter dans le monde et de décaper les mythes. On a un travail pédagogique à faire là-dessus.
Jeannette Abel, un complément?
Oui, non, je dirais qu'il faut profiter de cet intérêt pour leur faire lire des textes du Che, lire des biographies qui sont inégales, mais qui sont toutes intéressantes, quand même celles qui sont sorties en France, et il y en a d'autres en préparation.
Il y en a
un paquet, hein.
il y en a plus d'une dizaine, donc on ne les donnera pas.
Non, mais il y en a trois ou quatre quand même qui sont les plus substantielles. Bon, ils peuvent aller voir le film, j'en profite pour faire un petit peu de publicité.
Bien sûr, le film de Maurice Dugofson, El Che.
Mais surtout, de comprendre sa pensée. Et ça, on peut faire des sélections de textes. Ils existent, ils sont publiés. Ils ont été publiés aux éditions Maspero et réédités depuis. Et faire une sélection un petit peu pédagogique pour faire comprendre, tant sur le plan économique que sur le plan politique, que sur le plan international, ce qu'ils voulaient faire. Et c'est quand même ça le plus important.
Jeannette Abel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sociologue et enseignante à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Et que, alors peut-être on peut aussi conseiller votre livre « Rupture à Cuba, castrisme en crise », édité aux éditions Brèche. Daniel Ben Saïd, merci à vous aussi pour votre éclairage philosophique. Votre livre s'appelle « Le Paris mélancolique ». Vous parliez de la mélancolie de Che Guevara dans votre livre, vous en parlez. « Le Paris mélancolique » édité chez Fayard. Sylvie, peut-être un petit dernier coup de ton café Le Sud.
Le petit dernier mot, ce sera que quand même pour l'ensemble de la génération des 20-30 ans, ressortir le Che, c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas ce qu'il représente aujourd'hui, même si on ne le connaît pas très très bien, c'est que là en ce moment, aujourd'hui en France, il manque un contre-pouvoir, un courant qui s'oppose un peu à ce qu'on nous impose, un principe peut-être d'idéologie, pas forcément avec les armes, mais quand même quelque chose qui résiste.
On va y penser, Sylvie, il est 21h45, et je donne l'adresse, l'adresse 55 rue de Charonne.
55 rue de Charonne, voilà.
Et on entend le rocker fou, juste avant le rocker fou.
Oui.
Demain,
on fait la fête à Daniel Ben Saïd, d'une certaine manière, en tout cas à tous les enseignants, puisqu'on mettra en cause le pouvoir de ces enseignants, mais les pauvres ont déjà des pouvoirs bien bafoués depuis quelques mois. Avec Philippe Mérieux, Marc Guiraud et Jean Dessoli, les profs sont mis en examen demain. Voilà.